Bonsoir, comment allez-vous? Avez-vous rangé vos décos de Noël? C'est un crève-cœur de remballer toutes ces jolies choses, ces guirlandes lumineuses, ces couleurs chaleureuses, ces bougies, ces Pères Noël joufflus, ces lutins, cette gaieté, ce scintillement, cette magie. En plus, c'est du boulot. Il faut bien le faire si on ne veut pas ramer l'année prochaine quand on va les ressortir. Mais qu'on le veuille ou pas, nous sommes bien obligés de faire place nette pour accueillir autre chose. Et cette autre chose, c'est le printemps. Je sais bien que ça ne se voit pas, d'autant que les nuits sont encore longues. Regardez, il fait déjà nuit. Il va sûrement neiger et geler à nouveau. N'empêche que le printemps est là, comme le poussin est dans l'œuf, même si on ne le voit pas. Et si on veut qu'il vienne chez nous, il faut lui faire de la place. Si c'est encombré des choses du passé, il passera son chemin et ira chez le voisin. Et on se dira alors qu'on n'a pas eu de bol et que le voisin est un sacré filou pour avoir réussi à avoir le printemps chez lui. Au risque de me répéter, vive le renouveau, dégageons, dégageons, pour profiter des beaux jours qui sont à tout le monde, il faut savoir qu'ils vont venir, qu'ils sont là, dans les starting blocks.
Je m'appelle Mime, j'ai 4 ans, je voudrais savoir comment les feuilles poussent sur les arbres. Au revoir.
Bonjour, je m'appelle Roxane, j'ai 12 ans et je voudrais savoir combien y a-t-il de feuilles dans un arbre. Merci de me répondre.
Catherine Laine, vous êtes enseignant-chercheur en physiologie végétale à l'université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand.
Ninon, tu as dû observer que pendant l'hiver, il n'y a pas de feuilles sur les arbres, du moins chez les feuillus. Par contre, ce qu'on trouve sur les branches en hiver sont les bourgeons. Les bourgeons sont prêts. Ils se sont construits l'été qui a précédé l'automne où les feuilles sont tombées. Et les bourgeons vont s'ouvrir au printemps. Dans un bourgeon, qu'est-ce qu'il y a? Si je coupe un bourgeon, je vais trouver de toutes petites feuilles, minuscules, bien pliées, bien rangées à l'intérieur du bourgeon. Et au cœur du bourgeon, un petit dôme qui s'appelle un méristème et qui est la zone qui a fabriqué ces petites feuilles. Un petit peu comme si je regardais le cœur d'une salade, ça revient au même. Alors comment les feuilles poussent sur les arbres? Eh bien au printemps, le bourgeon se réveille, s'ouvre et les feuilles se déplient. Donc les feuilles proviennent des bourgeons.
Vous dites, Catherine Laine, au printemps le bourgeon se réveille, ça veut dire qu'il était là tout l'hiver.
Voilà, il a été construit l'année d'avant, l'été d'avant, et il a passé l'hiver en état de vie ralentie et de dormance, qui lui a permis de survivre au froid et au gel. Au printemps, lorsque les conditions sont bonnes, lorsque la lumière est suffisante, la température suffisamment grande, haute, le bourgeon s'ouvre.
Il sort.
Alors, non seulement les feuilles se déplient et se mettent en place, mais le méristème se réveille aussi et va construire de nouvelles feuilles. Et en plus, les feuilles qui étaient bien serrées dans le bourgeon, l'espace qui les sépare, ça s'appelle un entre-nœud, et ces espaces vont s'allonger, et donc en même temps que les feuilles se déplient et se mettent en place, la nouvelle branche s'allonge. Donc les feuilles se mettent en place en même temps que les nouvelles branches. Maintenant, la question de Roxane, combien y a-t-il de feuilles dans un arbre? Alors ça, c'est compliqué de répondre. Alors, soit on peut attendre l'automne, que toutes les feuilles soient tombées et on les comptera, soit on va estimer, on va faire une estimation. Donc, d'abord, il faut dire que le nombre de feuilles est variable, hein, selon l'espèce, selon l'état de santé de l'arbre, selon qu'il pousse dans une forêt ou tout seul dans un parc, il sera plus ou moins gros. Alors, il y a des modèles mathématiques dont se servent les scientifiques pour estimer la surface foliaire totale d'un arbre. C'est-à-dire, comme si je cueillais toutes les feuilles de l'arbre, je les mets à plat sur le sol, je fais un tapis et je mesure la taille du tapis. Et puis, on peut ensuite mesurer la surface d'une seule feuille. Ça, c'est facile. On va mesurer, en gros, par exemple, une feuille d'érable qui fait 10 cm sur 15 cm. Donc, on aura aussi sa surface. Et il suffira de diviser la surface totale foliaire par la surface d'une feuille pour avoir une estimation du nombre de feuilles. Chez un érable à sucre qui fait à peu près 30 cm de diamètre de tronc à hauteur de poitrine, donc c'est déjà un bel arbre, il aura une surface foliaire totale estimée à 180 mètres carrés. Et une feuille faisant 10 cm sur 15 cm, ça fait une surface foliaire pour une feuille de 0,015 mètres carrés. Je divise 182, la surface foliaire totale, par 0,015, ça fait en gros 12 133 feuilles. Et effectivement, quand on cherche un peu dans la bibliographie, on se rend compte qu'en gros, on estime entre 8 000 et 10 000 le nombre de feuilles d'un arbre adulte.
Voici le petit dialogue qu'a écrit le moine bouddhiste Thich Nhat Hanh entre lui et une feuille. J'ai demandé à la feuille si elle avait peur parce que c'était l'automne et que les autres feuilles tombaient. La feuille m'a répondu non. Pendant tout le printemps et l'été, j'ai travaillé dur pour aider à nourrir l'arbre et maintenant une grande partie de moi est dans l'arbre, donc je ne m'inquiète pas du tout. Ce jour-là, un vent soufflait et au bout d'un moment, j'ai vu la feuille quitter la branche et flotter jusqu'au sol en dansant joyeusement. J'ai incliné la tête, sachant que j'avais beaucoup à apprendre de la feuille. Thich Nhat Hanh, ce maître zen et moine bouddhiste, est mort hier au Vietnam à l'âge de 95 ans. C'était un grand acteur de la paix dans le monde, écrivain de dizaines d'ouvrages de sagesse. Quant à Catherine Lehn, son dernier ouvrage à elle, édité chez Belin, s'appelle « Dans la peau d'un arbre ». Vous écoutez Les Petits Bateaux, vous connaissez le principe de cette émission. Des enfants nous posent des questions et nous, nous trouvons des savants pour leur répondre.
Bonjour, je m'appelle Théo. Je voudrais savoir, est-ce que une météorite va s'abattre bientôt sur la Terre ? À bientôt.
Est-ce qu'une météorite va bientôt s'abattre sur la Terre ? Vous demande Théo. Vous êtes ingénieur, expert à la direction des lanceurs du CNES, Christophe Bonal.
Oh, c'est facile, Théo. Tu sais, ça dépend complètement de la taille des météorites. Parce que les météorites, finalement, c'est un caillou de l'espace qui tombe sur Terre. Et là, par exemple, rien que dans les 10 dernières secondes où je te parlais, il y en a eu plein. C'est ce qu'on appelle des étoiles filantes. Des étoiles filantes, c'est quoi ? C'est des petits grains de sable, une taille de quelques grammes, et qui bombardent la Terre, qui rentrent sur la Terre tout le temps. Et donc, c'est ce qu'on voit la nuit, les étoiles filantes. Bon, plus sérieusement, je pense que quand tu parles d'une météorite, tu veux dire quelque chose de plus gros. Alors évidemment, là, à nouveau, ça dépend de la taille. Mais par exemple, des météorites de 10 mètres de diamètre, qui sont déjà des beaux bébés, il y en a à peu près une par an qui tombe sur Terre.
Non, tant que ça.
Et après, ça dépend de la taille. Hein. Plus c'est gros, moins c'est fréquent. Mais par exemple, là, en 2015, il y a eu une météorite qui est tombée sur Tchelyabinsk, en Sibérie, ou la frontière de la Russie, et qui faisait 17 mètres de diamètre. Et pour la petite histoire, c'est assez rigolo, parce que celle-là, on l'avait pas vue venir. Mais par contre, on savait que le même jour, 15 février 2013, si je me souviens bien, le même jour, on en avait repéré une autre qui devait nous frôler. Et donc, tout le monde regardait l'autre et personne n'a vu venir la Tchelyabinsk. Et c'est ça le gros inconvénient pour nos météorites. Il y a quelques 20 000 gros objets, ce qu'on appelle des géocroiseurs, qui potentiellement pourraient croiser l'orbite de la Terre. Hein, géo, la Terre, croiseur, qui peuvent croiser l'orbite de la Terre, mais qui, a priori, ça ne se ferait pas dans les 100 ans qui viennent. À plus court terme, on en a repéré 1745, qui sont, dans notre jargon, on appelle ça les objets potentiellement dangereux. Hein. Il y a une chance sur 1000 que cet objet-là, numéro Tartampion, va croiser la Terre, donc là directement la Terre, tel jour à telle heure. Dès qu'on repère un objet qui est potentiellement dangereux, tous les télescopes du monde, tous les radars du monde se fixent dessus et arrivent à déterminer avec grande précision son orbite, et généralement donc c'est une fausse alerte. Donc on a un petit pic de stress. Le gros problème là-dedans, c'est ces objets, quand ils sont gros, on les voit. Hein, par exemple, un objet de 1 km, on estime qu'il y en a à peu près un millier hein, parmi les géocroiseurs. Sur le millier, on en connaît 950. Quoi. Donc on estime qu'il y a à peu près, il y en a peut-être 50 qu'on n'a pas bien repéré, mais voilà. Sur les objets entre 300 et 1 km, c'est très gros, on estime qu'il y en a à peu près 15 000. Et sur ces 15 000, on n'en connaît que 4 000. Donc l'un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est généralement les objets potentiellement dangereux, donc les météorites qui peuvent s'abattre sur Terre, comme tu le dis, Théo, malheureusement, on les connaît pas, on les voit pas. Et donc, il faut vraiment avoir de la chance pour qu'ils ne tombent pas dessus.
Et vous, ingénieur, vous sauriez les détourner ?
Alors oui, ça c'est un travail sur lequel on a beaucoup développé de techniques. Il y a plein de techniques pour les détourner. Tout dépend du temps, de la durée qu'on a pour ça. Souvent, l'énorme avantage, c'est si on arrive à repérer longtemps à l'avance un astéroïde potentiellement dangereux. Mais si on a par exemple 2 ou 3 ans devant nous, il y a plein de techniques qui sont très légères. Une technique amusante, par exemple, on peut aller le peindre en blanc. Simplement parce que la pression du soleil sur l'astéroïde sera légèrement différente que par rapport à quand il était en noir. Et donc ça va créer une toute petite pression légèrement différente de ce qu'il avait avant. Et cette petite pression va très légèrement dévier la trajectoire. Et quand on intègre cette déviation de trajectoire sur 2, 3, 4 ans, mais ça suffit à éviter. Alors, on peut le peindre en blanc, on peut aller souffler dessus avec un moteur fusée, et donc ça permet juste de dévier. Ou bien, il y a des techniques également comme le tracteur gravitationnel. Là, bon, il y a énormément de techniques qui sont développées. Notre problème aujourd'hui, c'est beaucoup plus encore d'arriver à les détecter correctement à l'avance.
C'est pas la joie. Voilà un métier d'avenir, peintre sur météorite.
Au niveau de notre pollution, c'est pas la joie, c'est pas la joie. Ou au niveau de la télévision, c'est pas la joie, c'est pas la joie. Passant. C'est pas la joie, c'est pas la joie. Au niveau de la contestation, c'est pas la joie, c'est pas la joie. Au niveau des manifestations, c'est pas la joie, c'est pas la joie. Y'a encore qu'au niveau de l'amour, ça marche toujours. Population. C'est pas la joie, c'est pas la joie. Ah, y'a encore que du bon amour, que ça marche toujours. Quand j'ai ton cœur contre mon cœur, ça marche à 100 à l'heure.
Au niveau de la pollution, c'est pas la joie. Au niveau de la télévision, c'est pas la joie. Extrait de la playlist de France Inter. Voici la toute dernière chanson écrite début 2022. Et non, Henri Salvador est mort en 2008. Il est d'ailleurs enterré à Paris, au Père Lachaise. Il était né en 1917 à Cayenne.
Les petits bateaux sur France Inter.
Allez, Anne Loerfu. Ah non, je le prononce pas très bien. Anne Loerfu.
Bonjour, je m'appelle Elian, j'ai 8 ans et demi et je voudrais savoir comment les hommes, avant, quand il n'y avait pas de réfrigérateur, faisaient pour conserver la nourriture.
Bonsoir Elio. Alors Elio, tu as dit les hommes avant. Les hommes avant, c'est votre métier. Anne Loerf, vous avez écrit le dictionnaire amoureux de l'archéologie, édité chez Plon. Vous êtes archéologue, vous êtes historienne, vous êtes archéométallurgiste et vous enseignez, vous êtes professeur des universités. Alors il dit avant, vous allez peut-être nous préciser, et il s'interroge, Elio, sur la conservation des aliments.
Oui, alors il y a plusieurs époques pour répondre à cette jolie question. Il y a le temps où les hommes de la préhistoire étaient des chasseurs-cueilleurs. Et donc, ils conservaient assez peu la nourriture. Quand ils avaient faim, ils allaient chasser le mammouth, ils mangeaient le mammouth. Et comme ils n'étaient pas des gens sédentaires, mais des gens nomades, ils ne restaient pas à un endroit pour effectivement conserver en grand nombre la nourriture. Le changement majeur arrive avec le néolithique, où là, les hommes se sédentarisent petit à petit, c'est-à-dire qu'ils s'implantent dans des lieux et ils ne sont plus des nomades. Et là, ils inventent l'élevage, ils inventent les cultures, et donc ils vont se retrouver avec de la nourriture abondante. D'un coup, il va falloir la conserver pour la consommer sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc là, on va effectivement trouver des moyens de conservation.
Et alors, quels sont ces moyens ?
Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est que, parce qu'effectivement, on n'a pas les frigos, il n'y a pas l'électricité, mais on a des moyens. On a plusieurs moyens importants. On a séché, on peut fumer, on peut saler. Le sel devient quelque chose de très important dans la vie des populations.
Parce que déjà, j'allais dire, c'est très ancien donc.
C'est très ancien. Ça va pratiquement de pair avec l'invention de l'agriculture. Et on a effectivement du sel qui est utilisé très 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 tôt. Donc sécher, fumer, saler, et puis fermenter, ce qu'on appellerait le pourri. où on fait macérer et où on transforme et on fait des liquides. Et puis on accompagne ça également d'épices. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que cette abondance de nourriture qui est donc conservée de plusieurs manières, ça va changer également la préparation alimentaire. C'est-à-dire qu'on va inventer ces cuisines variées dont nous avons hérité aujourd'hui et qui ont été inventées dans plein d'endroits du monde à peu près à ce moment-là.
Donc voir qu'archéologue, quand vous fouillez, vous pouvez trouver des instruments qui ont permis de saler, de fumer, de...
Alors non seulement on trouve des instruments, on trouve des traces directes comme ça, mais on trouve également dans des conditions de conservation qui le permettent, des pépins de pommes.
Ah bon?
Oui, de la viande séchée. On trouve directement des préparations alimentaires dans des fonds de céramique. Donc on a des traces tout à fait directes qui remontent à des milliers d'années et qui permettent de vérifier que ces moyens de conservation ont existé. On a des silos aussi, on a des installations et on a le résultat très concret. Et dans les momies, on a parfois le contenu de leur estomac, comme Ötzi, qui est une momie qu'on a trouvée dans un glacier dans les Alpes. Et on savait que dans son estomac, il a de la viande séchée, de cerf et de bouquetin.
D'ailleurs, vous en parlez dans votre dictionnaire amoureux de l'archéologie. Comme c'est un dictionnaire, c'est par ordre alphabétique. Donc, c'est pas à momie, c'est à...
Ötzi.
À O.
Oui, parce qu'il a un umlaut à l'allemande sur son O, Ötzi.
Ce dictionnaire est édité chez Plon et ça fait partie des livres dans lesquels on pioche et on pioche toujours quelque chose d'intéressant donc dans ce livre d'Anne Lehorf. Vous écoutez Les Petits Bateaux sur France Inter. Allez, revenons au 21e siècle.
Bonjour, je m'appelle Swan, j'ai 9 ans et je voudrais savoir comment on fait pour entrer à la Comédie Française. Merci de me répondre, au revoir.
Peut-être que Swan ira à la Comédie Française à Gannes en juin, vous êtes... conservatrice et archiviste à la Comédie-Française. Alors je pense que quand Swan dit comment il fait pour rentrer, je pense pour rentrer en tant que comédien.
Ah oui, j'imagine, ouais. C'est une question qu'on nous pose assez souvent, notamment les jeunes. Alors écoute Swan, en fait pour entrer à la Comédie-Française, il faut savoir que la personne qui engage les comédiens, c'est l'administrateur général, qui est un directeur artistique de ce théâtre.
Alors, c'est le grand Manitou de la Comédie-Française.
Voilà. Donc aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, l'administrateur général, c'est Éric Ruff, qui est comédien, qui vient de la troupe d'ailleurs, qui est metteur en scène, qui est scénographe. Et il est chargé de plein de choses, évidemment, dans ce théâtre. Il est chargé de faire la programmation, donc de choisir les pièces et les metteurs en scène qui vont constituer le programme du théâtre. Et puis, il aide les metteurs en scène à constituer leur distribution. Et ça, c'est un rôle très important qu'il a. Il connaît parfaitement les comédiens. Et il va dire, évidemment, en fonction des impératifs du moment, qui est libre, qui n'est pas libre, quel comédien pourrait convenir pour tel ou tel rôle. Et parfois, il lui manque des comédiens. Et c'est en général comme ça que les comédiens entrent à la Comédie Française. C'est parce qu'il a un besoin par rapport à une pièce. Donc pour te donner un exemple, si par exemple on fait une reprise et qu'un jeune comédien est programmé sur une autre création ou s'il est parti en tournée avec un autre spectacle, on va devoir peut-être engager un comédien.
Pour le remplacer.
Pour le remplacer, donc soit sur une reprise, mais parfois ça arrive sur les créations. Parfois, personne n'est libre pour faire un certain type de rôle et il faut engager quelqu'un. Donc c'est toujours comme ça qu'on engage un comédien, c'est sur vraiment une demande précise. Donc l'administrateur peut demander son avis au metteur en scène de la pièce, évidemment, qui peut recommander quelqu'un, mais il voit un peu plus loin puisqu'il voit aussi ce qu'il a en tête pour les saisons d'après et sur quelle pièce il pourrait demander à ce comédien de jouer.
Y a-t-il, à Gannes-en-Juin, un nombre fixe de comédiens à la Comédie Française ou ça peut gonfler ou bien diminuer?
Ça varie très légèrement. En général, on est autour d'une soixantaine de comédiens avec 20 pensionnaires et une quarantaine de sociétaires. Donc la différence entre les deux, c'est une différence de statut. Quand on entre dans la troupe, on est pensionnaire, donc on est engagé en tant que pensionnaire. Et au bout de quelques années, on peut être proposé pour entrer dans la Société des comédiens français, qui est une société privée qui remonte au XVIIe siècle, à la fondation de la Comédie française en 1680. Et donc, c'est les comédiens qui cooptent leur père pour entrer dans la société. Et c'est un autre statut.
C'est un statut plus, entre guillemets, gradé.
Voilà. Tout à fait.
J'imagine qu'ils sont plus payés et plus reconnus.
La rémunération est plus intéressante. Et ils sont intéressés, en quelque sorte, sur les bénéfices du théâtre. Même s'il faut mettre plein de guillemets, puisque la Comédie Française est quand même un établissement public et que, voilà. Et surtout, en fait, la grosse différence, c'est qu'en tant que sociétaire, on participe aux décisions.
Ah oui, c'est intéressant.
On peut faire partie du comité d'administration, qui statue sur tout un tas de choses et notamment sur le budget de l'établissement. Donc il y a un engagement du comédien sur la tenue des affaires du théâtre qui est très important.
Alors sur, disons, 60 comédiens, combien sont pensionnaires et combien sont sociétaires ?
À peu près une vingtaine sont pensionnaires et une quarantaine sont sociétaires.
Le livre d'Agathe Sanjuan est édité au Seuil. Quant à Éric Ruff, il était l'invité samedi 15 janvier d'Éric Delvaux et Karine Bécart à réécouter. But I know you don't know about you. Listen, I'm so defensive. There are things over there that I do not know about. Yeah, I'm so defensive. I get caught up in the modern day, the fishing net that's pulling at my feet. I'm so defensive. I got bongos thumping in my chest, and something tells me they don't be for me. I'm so defensive, I got eggshells on my doorstep, and I don't give second chances easily. I've got long hair, long beard, turtleneck, sweater. Got that long hair, long beard, turtleneck, sweater. You've got short hair, short beard, nothing feels better than me, and you, and me, and me. I'm so defensive, I got boobies on my booty, I got feelings in my feet. De la playlist de France Inter par Jean-Baptiste Audibert, cette fois-ci, c'est vrai.
Bonjour, je m'appelle Madeleine, j'ai 5 ans et je voudrais savoir pourquoi les chiens ont un plus bon odorat que les humains. Merci, au revoir.
Bonjour Madeleine, tu imagines bien que nous avons proposé ta question à quelqu'un qui s'occupe des chiens, un vétérinaire comportementaliste, Joël Dehaas, auteur de Tout sur la psychologie du chien, édité chez Odile Jacob. Effectivement, elle a raison, Madeleine, Joël Dehaas.
Elle a raison, Madeleine, puisqu'on estime que l'odorat du chien est à peu près 1 million à 100 millions de fois supérieur à notre odorat.
1 million à 100 millions.
Ah oui, nous sommes des êtres anosmiques, c'est-à-dire qu'on ne sent quasiment rien par rapport à ce que le chien sent. Le chien sent une goutte de vinaigre dans 100 litres d'eau. C'est assez phénoménal. Alors pourquoi ? D'abord, c'est une question de génétique. Le nombre de gènes responsables de l'odorat, c'est à peu près 1000 gènes chez le chien. Chez les humains aussi, mais la majorité de ces gènes ne fonctionnent plus chez les humains. Mais chez le chien, ils fonctionnent. Ensuite, il y a des parties dans le nez du chien qui permettent le maintien des odeurs. Donc quand le chien respire, il inspire avec son nez, l'air vient et tourbillonne dans le nez. Et quand le chien expire, il expire sur le côté de ses narines. Il n'expire pas en avant, il expire sur le côté, ce qui fait que les odeurs peuvent rester. Quand nous, on expire dans la même direction que quand on inspire, en avant.
Est-ce que votre histoire de côté, Joël Dehaas, expliquerait les petits trous où il n'y a pas de moustache ?
Les petites fentes qu'il y a sur le côté du nez. C'est là que l'air s'en va. Okay. Et donc l'air, les odeurs peuvent rester dans le nez un certain temps, imprégner les récepteurs et aller s'être décodées au niveau du cerveau. Donc ça, c'est une particularité de tous les prédateurs. Et nous, on a perdu cette capacité. On a encore, certains d'entre nous, on a encore un bon odorat, mais par rapport aux chiens, ça ressemble à rien du tout. Ouais,
ouais. Et alors, est-ce que ça lui sert finalement dans la vie, cette extraordinaire performance? Est-ce qu'il n'est pas sûr
Ben, ça lui sert essentiellement comme prédateur, quand il doit chasser, pour humer le parfum des proies. Ça lui sert aussi dans le contact avec nous, puisque ça lui permet de déceler nos émotions, non seulement par le décodage du visage, les émotions se voient dans le visage, mais aussi par le décodage des odeurs. On a fait une étude et le chien pourrait distinguer par l'odeur la différence entre des larmes de joie et des larmes de tristesse. Le chien, son odorat est fabuleux puisqu'on l'utilise maintenant pour décoder le diabète, pour décoder les crises d'épilepsie, pour décoder toute une série de problématiques. Le cancer, cancer de la peau. Donc le chien peut décoder les cancers de la peau. On s'en est rendu compte un jour où un chien sautait sans arrêt à l'arrière de sa propriétaire et tapait dans son dos. Et elle a regardé dans son dos, elle avait un mélanome dans le dos. Mon chien avait décodé, il avait vu qu'il y avait un mélanome, il avait senti qu'il y avait un mélanome dans son dos. Et depuis lors, on utilise le chien pour décoder les armes, les odeurs d'armes, les odeurs de drogue, les odeurs de...
D'encre de faux billets,
les de punaises de lit, on a des chiens spécialisés pour la détection des punaises de lit. Le chien sent et on va lui apprendre à interpréter l'odeur.
Il y a deux performances là-dedans.
Il y a deux performances. Il y a un odorat et il y a un cerveau derrière. Pour lui, c'est un travail d'aller faire ce décodage et il est récompensé de ce travail. Il est payé de ce travail avec un jeu ou la nourriture.
Et maintenant, bien entendu, les chiens, vous le savez probablement, peuvent aussi repérer le Covid-19. Chapeau les chiens. Le chien de Charlie Chaplin, quand il était petit, s'appelait Pimpon. Son grand frère Sidney et son copain Matt. Les parents du petit Charlie, donc le futur Charlot, étaient séparés et avaient chacun eu un autre enfant de leur côté. On n'était pas vraiment dans la joyeuse pagaille des familles recomposées comme on peut les voir dans nos magazines de maintenant. La maman de Charlot avait été séparée de son dernier enfant quand il était tout bébé et ça l'avait rendue folle de douleur. Quant au père, marié avec Louise, il buvait plus que de raison, beaucoup plus même, avec toutes les conséquences qui vont avec. La maman était tellement mal qu'elle a dû faire plusieurs séjours dans un hôpital psychiatrique. Charlie et son frère allaient alors chez leur père et même une fois ils sont allés dans un orphelinat. Et à l'époque, ce n'était vraiment pas rose. Pour vous situer, Charlie Chaplin est né le 16 avril 1889. Cela dit, cette époque n'avait pas que des inconvénients. C'est aussi celle de la naissance du cinéma. Cinéma inventé par les deux frères Lumière, Louis et Auguste, en 1895. Charlie avait alors 6 ans. Brigitte Kernel, longtemps productrice à France Inter, a écrit pour la jeunesse Charlie Chaplin, l'enfant du cinéma, édité chez Flammarion. Podcastez, mes amis, ces petits bateaux par franceinter.fr ou par l'appli Radio France. Marjorie Duvoucou, Guillaume Roux, Stéphane Combe, Noël Bréham, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à partir de 19h30. À suivre, Jérôme Garcin avec Un masque et la plume, consacré ce soir au cinéma.